RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Vincent Parisot sur RTL.
Et voilà, 19h17, c'est l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. Vous connaissez la formule de Marc Olivier. Christian Monanto est avec nous, chroniqueur économique sur RTL. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Gaspard Ganzer, l'ancien conseiller en communication de François Hollande. Et ça tombe bien parce qu'on parlera de François Hollande. Est avec nous. Bonjour,
bonjour
Gaspard.
Bonjour, bonjour.
Et puis, on a gardé évidemment le meilleur pour la fin. Virginie Leguet, la chef du service politique de Paris Match. On commence évidemment par New York. On sait maintenant que l'auteur de l'attentat d'hier, attentat où 8 personnes sont mortes, était lié au groupe État islamique, qu'il s'était radicalisé aux États-Unis. Et pourtant, le président américain, qui a tout d'abord tweeté en parlant d'une personne très malade et très dérangée, n'a toujours pas prononcé le mot de terroriste islamiste. On se demande un petit peu pourquoi. Est-ce que c'est un déni? Qui veut commencer par là? Tout de suite, peut-être avec vous, Benoît Gallaret, avec ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Je prends mes marques, qu'est-ce que vous voulez?
C'est parti. C'est partagé par rapport à ce Trump, puisque Ben trouve qu'il est dans le déni. Regardez, il parle de malade mental, alors qu'il nomme très facilement les attentats terroristes ailleurs dans le monde. Abruti, c'est juste que sur Twitter, on peut pas exprimer toute sa pensée, rétorque Poisson. Ouais, ça fait quand même 2 cas d'attentats terroristes aux États-Unis, 2 cas que la police taira pour ne pas ternir les promesses de Trump et sa réputation, accuse Anne. Mais la droite dure vient à la rescousse du président. Attentat islamiste en plein Manhattan et c'est Trump qu'on accable, s'offusque Boulevard Voltaire. Le seul fait valable, ce terroriste est entré aux USA quand Obama était président. Détourne de la conversation, Bruno. Ouais, ce sont les médias qui se vautrent dans ce procès anti-Trump, dit encore Arthur. Mais enfin, vous voyez bien que depuis Las Vegas, Trump joue sur les mots. Il veut plus qualifier ses actes de terroristes par fierté, pour se dédouaner des failles, répond Croix de Bois. Sur le site de 20 minutes, Nicole Bacharan qualifie le premier tweet de Trump d'absurde. L'acte d'une personne très malade et déséquilibrée, vous le disiez, alors que c'était pas du tout la piste suivie sur place, explique-t-elle. Il a une réaction à peu près identique après la tuerie de Vegas, parlant d'actes de mal absolu, sans considération politique sur la légalisation. Sur la législation des armes à feu, le soin des malades mentaux, il ne veut pas admettre que le président a, au fond, une responsabilité, dit-elle. Oh, si Trump parle d'un homme dérangé, il est dans le déni. Et s'il parle d'un attentat trop tôt, vous l'accuserez de récupération, soupire Olivier. Pour Martin, en fait, il est juste bipolaire, puisque dans un autre tweet, il fait le lien avec Daesh. Je ne sais pas si c'est beaucoup plus rassurant, conclut-il.
Alors voilà ce qui se dit. Nous, on va essayer, madame, messieurs, d'éviter le Trump bashing.
Ouais.
Mais quand même.
C'est impossible, ça.
On est étonné. Parce qu'on sait que le terrorisme s'est radicalisé aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'annonce le président américain? On va renforcer les contrôles des étrangers. Il dit pas aux USA, non, pas aux USA. Christian?
Oui, bien sûr, avec plaisir. Je vais essayer de...
N'attendez que ça.
Oui, non, pas vraiment. Non, mais la pensée complexe de M. Trump peut dérouter parfois. Hein. Donc, il n'y a pas que chez nous qu'il y a de la pensée complexe. Donc, non, si on regarde les choses plus sérieusement. Depuis 2001, il y a eu 10 attaques mortelles liées au terrorisme bien identifié de l'islam radical.
Aux États-Unis.
Aux États-Unis. Sur ces 10 attaques, 6 émanaient de terroristes qui étaient nés aux États-Unis. Donc ce sont des gens, des Américains, de vrais Américains. Et pour les autres, c'était soit des gens qui ont été naturalisés. Et quand on connaît les difficultés qu'il y a à être naturalisé américain, on vous radiographie sous tous les angles. Et les autres étaient des immigrés légaux. Là aussi, vous devez passer toute une série de barrières absolument impensables. Donc, ne pas s'exprimer sur ce dossier, c'est simplement masquer le fait qu'il y a au sein même des États-Unis, même si elle est extraordinairement minoritaire, une petite fraction de gens qui sont disposés à se livrer à ce type d'acte. Et en ne prononçant pas, je crois, l'acte de terrorisme islamiste, etc., Trump masque cette réalité. Elle est infime dans la vie américaine, puis, mais il la masque quand même.
Il dit cet homme est un animal.
Déséquilibré, oui, c'est ça.
Déséquilibré dans un premier temps, mais tout à l'heure, il l'a qualifié d'animal, il dit c'est une bête. C'est-à-dire que c'est un déni, c'est-à-dire qu'on refuse d'affronter la situation, Gaspard Ganzer.
Mais en fait,
je vais peut-être vous surprendre, je ne vais pas défendre Trump, mais malheureusement...
Il faut le faire.
Non, je ne vais pas le défendre lui en réalité, mais peut-être relativiser un tout petit peu son attitude par rapport à celle de ses prédécesseurs. Parce que moi, je sais que quand Barack Obama était président des États-Unis, il a, à chaque fois qu'il y a eu un attentat ou une attaque terroriste sur le sol américain, mis du temps à reconnaître qu'il s'agissait d'un attentat et d'un attentat terroriste. Ce fut le cas à Orlando, ce fut le cas aussi dans les attaques qui ont eu lieu en Californie ou ailleurs, parce qu'en réalité, les Américains n'ont pas envie de reconnaître peut-être la fragilité sur leur sol et leur exposition au terrorisme islamiste, et surtout de laisser entendre qu'ils ne sont pas prêts à protéger les Américains sur leur sol contre ces attaques-là. Il y a le traumatisme du 11 septembre qui explique largement cela, et malheureusement, Trump, comme son prédécesseur, a un peu de mal à le reconnaître.
Entre Jean-Christophe Buisson et Virginie Le Gay, c'est Virginie Le Gay qui prend la parole.
Comme tout à l'heure, vous gardez le meilleur pour la fin.
Voilà, exactement. Non, mais est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision de Gaspard Ganzer qui dit attention, c'est pas Trump, c'est quelque chose qui est... c'est un sentiment qui est très présent aux États-Unis.
Il est plus inquiétant pour les populations de se rendre compte que le terroriste peut être dans la rue à côté leur voisin, vit légalement sur leur sol, parfois depuis des années, n'a jamais été poursuivi pour quoi que ce soit. Le FBI n'avait jamais enquêté sur cet Ouzbek qui a commis aujourd'hui. Donc c'est beaucoup plus inquiétant de penser que le terroriste vient de l'intérieur plutôt que d'imaginer qu'il viendra de l'extérieur, car de l'extérieur, on peut toujours prétendre, comme le prétend Donald Trump, qu'on peut le barrer. D'ailleurs, Donald Trump avait essayé de dresser une liste de ressortissants d'un certain nombre de pays dont il voulait interdire l'entrée sur son sol. Ça a été refusé, mais dans cette liste ne figurait pas l'Ouzbékistan ni le Kurdistan. Donc on voit bien que... on peut toujours prétendre faire des règles, mais quand on sait son voisin sur place, quelles règles on peut faire et qui on peut soupçonner, d'autant, et j'en termine, pardon, que cet Ouzbek s'est radicalisé sur le sol américain. Et il est probablement rentré en contact, on ne sait pas très bien pourquoi, l'enquête le dira, mais avec des réseaux islamistes sur le sol américain.
Mais il y a aussi le fait qu'il ne prononce pas le mot de terroriste islamiste. D'ailleurs, c'était aussi un débat qui nous a concernés il y a quelques années. C'est quoi cette pudeur par rapport à
moi, il me semble qu'on surinterprète pour beaucoup ce que fait Trump. C'est-à-dire que Trump, il fait en ce moment ce qu'il a fait pendant toute sa campagne électorale. C'est-à-dire qu'il passe par-dessus nos grandes intelligences, qui nous sommes là à essayer de comprendre la législation. Même après, il commence à dire la justice devrait être plus rapide, etc. Comme s'il allait légiférer sur la justice.
Il a dit la justice est une blague.
Est une blague. Mais tout ça n'a aucune importance. Trump, ce qu'il fait, il raisonne comme ses électeurs. Et ces électeurs, spontanément, vous avez ce type d'attentat, qu'est-ce que vous dites spontanément quand vous êtes le peuple américain de base? Vous dites, c'est un mec qui est fou, c'est un mec qui est déséquilibré. Alors, après, il le fait au nom d'idéologie, peu importe, mais le premier réflexe que vous dites, c'est ça n'empêche pas que ce type est fou et déséquilibré pour monter sur un trottoir et écraser des gens, c'est la première chose. Ensuite, vous dites, non, c'est pas possible, pas chez nous, pas aux États-Unis. C'est exactement le Trump qui fait, c'est de l'incantation, c'est absolument pas de la théorie politique, c'est absolument pas de la réflexion, c'est... Il écrit ce que l'Américain moyen pense.
À un moment, ça va être un peu court. Il a gagné les élections. À un moment, ça va être un peu court.
Est-ce que c'est le rôle d'un responsable politique que d'aller dans le sens de son électorat et de ne pas essayer de leur dire les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles se produisent?
Pour l'instant, il a gagné l'élection en faisant ça. Donc il est toujours dans cette idée-là.
Mais il a une responsabilité.
Mais nous, on est là à théoriser, à dire il faudrait faire ci, il faudrait faire ça.
Je ne théorise pas. Je dis qu'un responsable politique a une responsabilité de dire les choses telles qu'elles se produisent et de ne pas raconter une autre réalité à ses électeurs.
Bien sûr, mais à ce moment-là, vous reniez tout. Enfin, vous reniez, pardon, mais vous déniez sa victoire de
l'année dernière.
Mais
ça n'a rien à voir.
Mais si, il a gagné en faisant ça.
Il se passe des événements.
Et nous, on est là à dire il est fou, il est dingue, il fait n'importe quoi, etc.
Personne n'a dit ça d'ailleurs ce soir. Personne n'a dit ça.
Ce soir, quand il a gagné les élections, tout le monde disait ce type est fou, il ne peut pas gagner.
Il a gagné les élections.
Il a gagné parce qu'il a fait ça. Exactement.
Mais c'est pas parce qu'il les a gagnés, même si c'est sur des mensonges ou des approximations, qu'il doit continuer à le faire. Il est président des États-Unis aujourd'hui. La plus grande puissance du monde, il se doit de tenir un langage.
Il se doit, mais qui sommes-nous pour dire il se doit?
Mais enfin, en tant que responsable de son pays, c'est juste ça. C'est pas parce qu'il a gagné il y a 5 mois.
Mais surtout, il y a deux langages.
Parce qu'il faut tenir un discours de campagne. Il y a
le Trump qui commente un attentat terroriste lorsqu'il se produit à l'étranger.
Exactement.
En France.
Et là, il met les mots. Comme par hasard, il les met.
Et le jour où ça se passe chez lui, voilà, on ferme le rideau.
Mais Vincent, c'est simplement...
C'est une bête et un animal.
Je pense qu'on revient au début de nos propos. Je crois qu'on les partage ici. C'est qu'il est quand même profondément en porte-à-faux avec l'ensemble des déclarations les plus martiales qu'on puisse imaginer, qu'il a tenues d'abord durant sa campagne et durant ses premières semaines à la Maison-Blanche. Il était sur un mode avec moi aux commandes,
d'abord, un, vous ne craignez rien parce que je suis un gros balèze et je vais terroriser les terroristes, comme disait quelqu'un chez nous. Mmh. Et il s'avère que ça n'est pas le cas, que ça ne sera pas le cas, que ni lui ni un autre ne peut éradiquer les petits groupuscules terroristes qui sont implantés un peu partout à travers la planète, et que ça, il ne veut pas le reconnaître. Mmh. Je pense que c'est une histoire, d'abord, elle est peut-être politique, bien sûr, mais il y a aussi le volet égo personnel du gaillard qui dit « Je vous ai promis des choses, je ne vais pas reconnaître que ce que je vous ai promis, c'est de la daube. »
D'ailleurs, il a mis ça sur le dos des démocrates en leur disant oui, « Vous avez autorisé un programme de la diversité.
» il est rentré avec la loterie, qui est un autre truc qui a lieu en ce moment même. C'est la semaine de la
Loterie. Oui, parce que lui, il a eu sa carte verte terroriste avec la loterie.
C'est le programme de la loterie des visas pour la diversité. Donc, il a mis le doigt sur cette question-là en disant aux démocrates « Vous êtes responsables. »
Voilà, c'est ça. Ce que je vous propose, c'est de faire une courte pause et puis d'ouvrir dans un instant un autre dossier avec vous. On va évoquer la retraite hyperactive de François Hollande en se demandant si elle ne cache pas un peu une ambition de revenir en première ligne. Et puis ça tombe bien parce qu'on a autour de la table son ancien conseiller en communication qui en plus justement sort un livre. A tout de suite sur RTL.
On refait le monde dans RTL Soir.
Vincent Parisot.
Eh bien dites-moi, pour un retraité, c'est un retraité actif, hein, François Hollande. Il se déplace en France, à l'étranger, il consulte, il reçoit Rude Rivoli. Alors évidemment, on se demande qu'est-ce que ça peut cacher. Je vous rappelle que nous sommes toujours avec Christian Menanteau, Jean-Christophe Buisson, Virginie Leguet. Et ça tombe bien, Gaspard Ganzer, l'ancien conseiller en communication de l'ancien président, qui sort, tiens, on va faire la pub un petit peu.
Merci,
à partir de demain. La politique est un sport de combat, donc livre consacré ce quinquennat de François Hollande que vous avez passé donc à ses côtés. La politique est un sport de combat. François Hollande, il veut un deuxième round. On va voir, mais on va tout d'abord écouter ce que disent les internautes avec Benoît Galeret.
Alors écoutez, j'ai trouvé quelques exceptions comme Vince qui lance « Parlez, monsieur le Président, vous nous manquez !» ou Caroline qui estime que réhabiliter Hollande en faisant un bilan honnête et objectif grandirait les journalistes. Qui j'a encore ? Je pense que François Hollande, en tant qu'homme politique, a tout à fait le droit d'exprimer ses idées et ses craintes sur la politique menée par Emmanuel Macron. Après, je crois que je tiens là les trois seuls cas de France. Un retour de Hollande, vous êtes gentil, c'est qu'un incompétent dont les chevilles ont enflé. Dans le privé, on l'aurait viré avant les 3 mois d'essai, s'écrit plutôt Marie. 4% d'avis favorables, incapable de se représenter. Maintenant, même son parti lui demande de la fermer. Franchement, Hollande est une légende, ricane Tinque. Ouais, faudrait qu'il commence à apprendre à se taire. Il a assez ridiculisé la fonction comme ça, s'agace même Félix. Cardi nous propose de revenir sur les mots-clés de son quinquennat. Scooter, Leonarda, Valérie, coiffeur, Théo, attentat. Comment reprendre la main quand le résultat de son mandat, c'est un PS à la ramasse et Le Pen au deuxième tour, demande encore Olivier. Comment lui refaire confiance après toutes ces trahisons, soupire Mariana. Hollande a trop souffert du Hollande bashing et des frondeurs. Un retour est impossible, mais rien que pour avoir dû affronter les attentats et montrer un comportement exemplaire à ce moment-là, il mérite respect et reconnaissance, rappelle tout de même Nour. Mais Martine de conclure, Sarkozy aussi pensait qu'il était indispensable et il a pris sa claque. Hollande devrait se méfier.
Bon, bah globalement, le voilà quand même bien habillé pour cet hiver. Gaspard Ganzer, j'ai envie de vous demander, il peut revenir et j'ai même envie d'aller plus loin. Dites-nous ce que vous pensez. Il doit revenir.
Moi, je pense surtout qu'il doit faire comme il l'entend. En fait, il y a quelque chose de déstabilisant, je pense, pour les observateurs, c'est que François Hollande s'est devenu un homme libre. Il est passionné par la politique. En fait, il n'a pas du tout l'intention de se taire. Il ne parle pas tous les jours. Il n'est pas premier secrétaire du Parti Socialiste ou à la tête de l'opposition. Mais par contre, quand il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, il le dit. Et il a bien raison de le dire. Je crois, pour bien le connaître, qu'il n'a pas d'agenda caché, il n'est pas en train de se dire « je vais être candidat à ceci ou à cela » comme Giscard avait voulu le faire dans les années 80.
Il n'est pas un peu en train de tirer les ficelles sur ce qui peut se passer au Parti Socialiste?
Bon, il a peut-être un œil dessus, mais moi je ne passe pas mes journées avec lui, donc c'est difficile pour moi de le dire. Mais non, je crois juste qu'il reste passionné par la politique, il n'a jamais dit qu'il prendrait sa retraite politique et que donc il participe au débat public et il donne son avis. Ça peut en déroger certains, mais il n'est pas interdit de donner son point de vue dans le débat public, même quand on est un ancien président de la République.
Christian Mounanteau.
Je crois que François Hollande a raté deux choses dans sa sortie. La première, c'est qu'il ne s'est pas fixé comme priorité de s'installer comme ancien président de la République française, mais plutôt comme un homme politique comme les autres, en se mettant tout de suite à niveau des petites déclarations de droite et de gauche. Et la deuxième, le deuxième ratage, à mes yeux, c'est que... En ratant le premier, il s'interdit de mettre en lumière quelque chose que l'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire les bons résultats de l'économie française qui sont pour une large part dus au travail qui a été fait par l'équipe du gouvernement.
D'ailleurs, les économistes en général, voilà, sur aussi, les grandes radios,
par le contexte international,
comme vous, tous les matins, dit à la radio, François Hollande.
Attendez, international.
On va se détendre. Le contexte international joue. Le contexte international.
Vous avez la dent dure.
Le contexte international joue, bien évidemment, mais encore, il avait joué, et il aura toujours joué tout au long des dernières années. Le seul problème, c'est d'être en capacité d'en profiter un petit peu.
Pardon ? Il ne jouait pas sous Hollande, que bizarre.
Il faut un peu de temps pour que les mesures prennent leur effet. Non, soyez là-dessus plutôt, comment dirais-je, de bons joueurs. C'est trop dur pour notre camarade. Mais globalement, et donc voilà, deux, à mon avis, les deux pistes importantes qui lui étaient ouvertes et qu'il n'a pas utilisé. Et je pense que s'il continue de s'enfoncer dans les petites phrases, dans les petites balades, je vais à Marseille dans les quartiers nord, je vais ici, je vais là, je vais à Bruxelles, etc., ben il va un petit peu se noyer dans la petite politique.
Vous êtes d'accord, Virginie Le Guay, avec ce que dit Christian, finalement, qu'il est dans une position où il va perdre un peu des deux côtés, il ne va pas tirer les fruits de ce qu'on pourrait aujourd'hui peut-être lui accorder, par exemple, avec le chômage?
Moi, je dirais une chose, François Hollande en rêvait, Emmanuel Macron l'a fait. Emmanuel Macron, il fait la politique que François Hollande n'a jamais osé faire vraiment jusqu'au bout. Emmanuel Macron, il a 23 ans de moins que lui. Emmanuel Macron, il a démissionné, il est parti au nez, à sa barbe, et jusqu'à la dernière minute, François Hollande ne l'a pas cru capable de faire ça. Il l'a fait, et aujourd'hui, il est président de la République. Et il y a quelque chose d'un peu... pas amer, parce que c'est pas quelqu'un d'amer, mais d'un peu, il se retrouve sur le bord de la route. Il faut quand même rappeler qu'il est peut-être ancien président, mais c'est un ancien président qui n'a pas été dans la capacité de se représenter, ce qui dit quelque chose quand même de son impuissance politique. On peut raconter ce qu'on veut sur les incroyables effets positifs de son quinquennat, mais enfin, il a été privé de possibilité de se représenter. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, même s'il le fait quand il est à Séoul, ou quand il va à Tulle, ou quand il va à Arles avant l'été, il soit en mesure de donner des conseils, des commentaires à qui que ce soit, sur qui que ce soit. Moi, j'aurais préféré qu'il se taise un bon coup et puis qu'il se reconstruise, qu'il réfléchisse, qu'il comprenne et qu'il laisse un peu Emmanuel Macron faire ce qu'il a à faire. Emmanuel Macron, ça fait 5 mois qu'il est élu et ça fait déjà 3 mois que François Hollande lui donne des leçons. Je trouve ça un petit peu fort de café.
Je vais vous donner la parole, Jean-Christophe Buisson, mais juste peut-être pour réagir à ce que vient de dire Virginie Le Guay, j'aimerais bien avoir l'avis de Gaspard Ganzer, parce que vous l'avez vécu, et puis même vous parlez, il y a une petite boutade dans votre livre, hein, de François Hollande, qui dit heureusement que le bouquin est sorti, parce que du coup comme ça j'ai pas été obligé de me représenter.
C'est un trait d'humour, il faut le comprendre comme ça. En réalité, François Hollande, il a eu plus de lucidité que beaucoup en décembre 2016. Il a fait le constat que la gauche était ultra divisée et incapable de se rassembler, et que en se retirant, il pouvait...
Je peux terminer. La faute à qui ?
Responsabilité partagée. Les frondeurs, les membres du gouvernement, ceux qui étaient partis, Mélenchon, etc. Et donc, il a fait le pas de côté, ou le retrait, qui a permis à la gauche peut-être d'avoir un petit électrochoc. Et c'est certainement aussi ce qui a permis à Emmanuel Macron de l'emporter au bout du compte.
Jean-Christophe Buisson.
Moi, je crois qu'il est terrorisé aujourd'hui à l'idée de laisser les gens indifférents.
Théorisé ou terrorisé ?
Théorisé. Je pense que s'il est sorti aussi vite de son silence...
Je ne sais pas si c'est le bon mot à utiliser aujourd'hui.
S'il est sorti aussi vite de son silence, c'est parce qu'il ne voulait pas accepter l'idée qu'on ne pense rien de lui, que ce soit en bien ou en mal. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, il n'a pas pu... vous avez cité Gaspard tout à l'heure, Giscard, c'est un peu le même syndrome que Giscard, qui, quand il a perdu en 80, s'est retiré, je crois qu'il était parti en Grèce sur une île, et puis au bout d'un mois,
il est revenu.
Il était plus jeune que François Hollande aujourd'hui. Il avait 55 ans, il a repiqué à la politique très vite. Et Hollande, aujourd'hui, aussi, le deuxième syndrome, c'est, un, qu'on ne pense pas rien de moi, et deux, surtout que quand même, on me reconnaisse effectivement certaines qualités. Et heureusement, il y a Gaspard Ganzer dans son livre, vous le faites très bien d'ailleurs, vous dites en quoi justement il considère que, d'accord, il a fait plein de bêtises, mais aussi il a fait des choses, oui, il a mis juste, sur les rails, et c'est quand même fort de café que dans son propre camp, à part Stéphane Le Foll, peut-être, oui, et vous,
qui faisait
personne
le job.
Ne le dise. Donc, mais ça, je comprends tout à fait.
En parlant de son propre camp, cette agitation, même en coulisses de François Hollande, est-ce que ça risque pas un peu de paralyser ceux qui seraient tentés?
J'espère
que
les socialistes
sont déjà tous paralysés. Olivier Faure, il dit, c'est pas à François Hollande de décider qui sera le prochain premier ministre.
Non, mais moi, j'adore les socialistes, mais les socialistes, ils sont assez grands pour essayer de s'en sortir tout seuls. Soit qu'ils s'en sortent pas tout seuls, ils méritent de s'enfoncer. Je pense que François Hollande, il a bien le droit de parler, respectons sa liberté d'expression, il a bien le droit de dire
mais
ce qu'il
veut. Mais sans surinterpréter, sans avoir l'impression qu'il veut se relancer.
Je ne crois pas que ça soit ça, effectivement.
Allez, on marque une courte pause et puis dans un instant, on se demande si Emmanuel Macron n'est pas le président des Toubibs. A tout de suite.
RTL Soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Vincent Parisot.
Avec Christian Menanteau, chroniqueur économique à RTL, Jean-Christophe Buisson, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine, Gaspard Ganzer, l'ancien conseiller en communication de François Hollande, et Virginie Leguet, chef du service politique à Paris Match, avec toujours Benoît Galeret pour les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, les consultations dites complexes ou très complexes vont changer de tarif chez le médecin. Elles vont passer de 46 à 60 euros. Alors certes, c'est le résultat de négociations entre les syndicats et de médecins et d'assurance maladie. C'est pas une décision directement imposée par l'Élysée, mais quand même. Après la mise sur la voie de garage du tiers payant généralisé, on se dit que pour les médecins, eh bien, ce nouveau quinquennat commence quand même très très bien. D'où cette question un peu caricaturale peut-être, mais on la pose. Macron est-il le président des médecins? On en dit quoi sur les réseaux sociaux, Benoît Galeret?
Bien sûr, crie Duflard comme beaucoup. Les médecins sont les grands gagnants. Leur lobby d'ultra même, assure Hugo. Toi tu payes cash, les médecins veulent pas du tiers payant et ta mutuelle va augmenter. C'est un scandale, s'énerve Papou. Oui, scandaleux, confirme Catherine qui accuse un manque de déontologie et de conscience professionnelle des médecins nouvelle génération qui veulent tous bosser 35 heures, super payés. Ça devient trop cher d'aller soigner. Comme dans tous les domaines, avec Macron, on va vers une médecine à deux vitesses, celle des riches et celle des pauvres, soupire Vanessa. Voilà, c'est bien, nous on va pouvoir crever tranquille et les riches qui en plus payent plus l'ISF auront aucune attente pour consulter, grince Echter. Martin Ambroise, médecin généraliste à Dijon, s'énerve alors, ce sera remboursé. Alors pourquoi ils pleurent les veaux? Pour être remboursé, faut d'abord payer, pauvre type, rétorque pas. En tout cas, fin du tiers payant obligatoire, ça c'est très bien. Un acte médical ne doit pas être considéré comme gratuit, applaudit Patrice. Voilà, que les pauvres arrêtent d'enquiquiner les médecins. Macron et Medef en ont ainsi décidé, conclurait-on.
Voilà, alors on l'avait pendant la campagne un peu soupçonné d'être le candidat des labos. Et maintenant, on le soupçonne d'être le président des médecins. Ça vous fait sourire, Virginie Leguet?
Je voulais simplement rappeler que ces nouveaux tarifs de consultation sont le résultat de négociations entre les syndicats de médecins et l'assurance maladie, mais c'est des négociations qui ont eu lieu en août 2016. Donc Macron n'y est absolument pour rien. Pour une fois, là, on ne peut pas l'accuser d'avoir fait quoi que ce soit. Il hérite de quelque chose qui a été décidé avant, et ces nouveaux tarifs qui entrent en vigueur le 1er novembre, ils ont déjà été publiés au journal officiel il y a déjà un mois et demi. Donc il n'y a pas beaucoup de nouveautés là-dedans. Après, on peut discuter des prix de ces consultations.
Et puis peut-être aussi discuter de la question sur le tiers payant généralisé.
Complexe, hein, moins complexe, très complexe, ça c'est possible. Et sur effectivement le tiers payant qui est un peu repoussé au calendrier grec,
Et par parenthèse, justement, le tiers payant fonctionne à 100% pour les complexes et les très complexes. Donc c'est là que c'est paradoxal.
Pour ces consultations-là.
Qui sont pour la plupart, oui, c'est ce que je dis. Qui sont pour la plupart justement des maladies graves, difficiles, ou les consultations pour la première fois pour une jeune fille, pour.
La
contraception, etc. Donc il faut arrêter. Moi, c'est agaçant. Dès que Macron prend quand même une décision, on l'accuse d'être le président des riches, le président des chefs d'entreprise, le président des médecins. C'est insupportable. En plus, on voit bien la petite musique qui court. C'est d'abord, lui-même est fils de médecin. Donc,
Et deuxième chose,
les médecins, c'est forcément les chirurgiens qui vont jouer au golf aux Antilles tous les deux jours. On ne pense pas justement à tous les médecins qui croulent sous les problèmes administratifs que cette génération du tiers payant allait décupler d'une certaine manière encore plus, puisque c'était à eux de renvoyer le paiement à l'assurance maladie pour se faire rembourser, etc. Et donc, ils allaient encore crouler sur l'administratif. Je crois que c'est une mesure tout à fait saine et cohérente, qui est prise après consultation, qui est pragmatique et pas idéologique, alors que votre ami François Hollande, cher Gaspard, avait pris cette décision qui me paraissait assez idéologique, justement. Et là, il se dit, non, on fonctionne pas comme ça. On va tendre vers cette généralisation, mais on ne la rend pas obligatoire, pour que justement les petits médecins qui font 10 ans d'études, qui se sacrifient et qui commencent à ouvrir, soient pas ne croule pas sur les premières initiatives, soit pas obligé de prendre un comptable pour gérer tout ça, et puisse accorder vraiment du temps aux consultations, avec en gagnant correctement leur vie. Moi, je pense que
la durée de l'acte moyen, c'est 15 minutes.
C'est 15 minutes, sauf pour les complexes, où on prend pas 15 minutes pour annoncer à quelqu'un qu'il a un cancer, par exemple.
C'est pour ça qu'il y a cette nouvelle codification.
Là-dessus, on va pas être d'accord, enfin, sur le tiers payant, parce que moi, je crois que c'est vraiment une mesure, la généralisation, qu'il est déjà largement mis en place, est vraiment très importante, parce que c'est un progrès social, ça a permis aux plus modestes de pas avoir avancé les frais.
Donc maintenant, c'est mieux déjà, ils avançaient pas les frais.
Ouais, mais
la décision de le repousser, d'après vous, là, c'est une décision idéologique.
Et les maladies longues.
C'est peut-être compliqué, mais il y a plein de choses compliquées.
Mais comment vous compensez pour les médecins, justement, en ce moment-là? Très bien, vous prenez cette décision, mais comment vous la compensez pour les médecins? Tout le temps qu'ils vont passer à l'administratif?
Moi, ma famille, ce sont des médecins comme dans la famille d'Emmanuel Macron. Ils ont des tâches administratives. De toute façon, si les médecins en ville, s'ils ne les envoient pas à la sécurité sociale, ils les envoient à leur comptable ou à leur banquier. Honnêtement, ce n'est pas une tâche de plus qui va poser problème.
Je ne suis pas sûr que tous les médecins ont des comptables et des banquiers. Peut-être, là, vous parlez des médecins de ville, mais les médecins de campagne, ils n'ont pas de comptable.
Ils doivent faire la comptabilité, de toute façon.
Ils la font eux-mêmes.
Ils font déjà des mesures administratives. Ils ont déjà une banque. Ils ont déjà une comptabilité.
Pas de problème. Sauf que c'est au détriment du temps pour soigner des gens.
Parce que pas du tout. Parce qu'ils n'auront plus de chèques. Je suis désolé, mais quand on n'a pas versé les frais, on n'a plus un chèque à encaisser, à endosser, etc. C'est aussi très concret, puisque c'est la carte vitale qui permet de prélever directement les choses. Et puis après, vous êtes remboursé par l'assurance maladie.
Mais il faut
donc
le demander.
C'est presque une... d'accord, mais comme vous avez à demander à une banque d'encaisser votre chèque, c'est pas plus compliqué de demander à l'assurance maladie de vous payer que de verser votre chèque à la banque. Je vois pas en quoi c'est plus compliqué.
C'est plus long,
vous connaissez pas l'assurance maladie, l'administration.
Écoutez, demandez aux médecins qui l'ont déjà mis en place. Honnêtement, je crois qu'ils s'en plaignent pas. Et là, on va repousser quelque chose qui est un progrès social et c'est un problème.
Pour les médecins, alors qui a fait le plus de mettre leur chèque à la banque, si c'est pas plus long de se faire payer par
Mais
honnêtement, il y a pas
les délais sont plus longs que de juste mettre son chèque à la banque et d'encaisser.
Mais honnêtement, c'est à la marge quoi qu'il arrive.
Je vais quand même vous donner la parole.
Les patients sont perdants, ça j'en suis une certitude.
J'aurais du mal à départager Gaspard Ganzer et Virginie Le Gay sur cette question. Vous allez faire le juge de paix, Christian.
Non, sans non, loin de moi l'envie de m'ériger, juge de paix. Néanmoins, sur cette affaire du tiers payant, qui est, attention, le tiers payant est déjà largement généralisé. On est en train de parler, mais vraiment, de cas marginaux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous disposons, et c'est une chance inouïe en France, à travers la CMU, la fameuse couverture médicale universelle, à l'acquisition de complémentaires santé, enfin, toute une batterie de dispositifs qui permettent, franchement, aux Français d'être décemment soignés. La moyenne européenne d'une consultation, j'ai été regarder combien ça coûte, en Europe, c'est 45 euros. En France, 25 euros. Mmh. Et sur ces 25 euros, globalement, on ne paye rien puisque la sécurité sociale prend cette dépense en charge. Là, on introduit deux tarifications un peu complémentaires pour les fameux cas complexes ou très complexes.
De 46 à 60 euros.
46 à 60 euros. Mon garagiste, pour la révision de ma bagnole, c'est 62 euros de l'heure. Donc, je me dis que si un jour, par malheur, autour de moi ou pour moi-même, il y avait un cas complexe...
Oui, mais je sais.
En général,
on prend l'exemple du coiffeur pour ça, mais ça, vous ne pouvez pas le faire, évidemment. Allez, on va marquer une pause.
C'est pervers, c'est bas.
Allez, on va marquer une pause, et puis dans un instant, on va parler du climat.
Je ne sais pas combien ça coûte d'avoir
surtout, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. On nous dit qu'il y aurait un écart catastrophique entre les promesses des États qui ont été faites à Paris et ce qu'il faudrait faire pour rester sous ces fameux 2 degrés de réchauffement. Apparemment, c'est très grave. On en parle avec vous dans un instant, mesdames, messieurs.
RTL Soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Vincent Parisot.
Toujours avec Virginie Le Gay de Paris Match, Gaspard Ganzer, l'ancien conseiller de François Hollande, Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine et Christian Menanteau d'RTL. Je vous cite dans le texte ce qu'a déclaré hier le responsable environnement de l'ONU. On est à 6 jours de la COP23. Il dit « L'écart est catastrophique entre les promesses nationales de limitation des émissions de gaz à effet de serre et les réductions qu'il faudrait vraiment opérer pour maintenir le réchauffement en dessous de 2 degrés, puisqu'on dit qu'en dessous de 2 degrés, le réchauffement sera finalement acceptable. » Est-ce que ça veut dire, madame, messieurs, qu'on a finalement, même si on s'est gargarisé à l'époque, été petit bras lors du sommet de Paris ?
Christian.
Ben, je crois pas, hein. Franchement. D'abord, on peut considérer franchement que c'est une grande première. Avoir réussi à faire converger les esprits autour de la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ça a quand même été une grande première. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose qu'on a oublié de se dire à ce moment-là, c'est que, un, nous avions tous, et en particulier les grands pays développés, les technologies du 21e siècle qui nous permettraient de remplir cet objectif. Simplement, en face, on a des organisations politiques, économiques et sociales qui sont du 20e et une classe politique qui réfléchit comme au 19e. Mmh. Donc, malheureusement, on y arrivera difficilement si on ne change pas les deux premiers paramètres.
Mmh. Avec des conséquences terribles, hein, disent les responsables de l'ONU. Il dit on est loin du compte pour préserver des centaines de millions de personnes d'une vie de misère.
Mais on sait à peu près ce qu'il faut faire. Hein, ce qu'il faut faire, on le sait.
Gaspard Ganzer.
Il faut vraiment se déterminer à le faire.
Oui, oui. Non, là, je pense que l'accord de Paris voulu par Hollande, Hulot, Fabius et tous les chefs d'État de la planète à l'époque.
Ségolène Royal,
bien sûr. A été vraiment un grand progrès. Il y a un sujet sur lequel je ne vais pas défendre Trump, c'est celui-ci, parce qu'il a été lamentable en faisant vraiment de la démagogie. Et ce sujet, je peux aussi défendre évidemment Hollande, mais également Macron, qui ne s'est pas laissé intimider par Trump quand il a voulu dénoncer l'accord sur le climat, et qui reprend lui-même le sujet, puisque je crois qu'il va faire un sommet au mois de décembre sur le climat. Il ne faut pas lâcher l'affaire parce que c'est encore possible peut-être de faire changer les États-Unis de point de vue. Et surtout, bon, j'espère que Trump, dans 3 ans, ne sera plus président des États-Unis et qu'on pourra reprendre une négociation plus normale.
On va demander aux Russes.
Mais Virginie Leguet, quand Gaspard Ganzer disait « Franchement, à Paris, on a fait un grand pas en avant », je vous ai entendu dire « C'est-à-dire, sous-entendu, pas sûr ».
C'est-à-dire que ça a été un grand succès diplomatique parce que tout le monde a été réuni pour discuter des mêmes sujets. Et effectivement, tout le monde s'est gargarisé. On a vu tout le monde dire c'est formidable, c'est un grand progrès. Alors pour le coup, il y a eu des tweets enthousiastes pendant des semaines. Moi, je crains que, étant donné le nombre de personnes qui participaient à cet accord, de pays, il y avait 195 pays, 195 parties, dont 194 pays plus l'Europe. Ben forcément, pour arriver à un accord, on vide de tout, de ses substances. Simplement, ça s'est plus ou moins bien vu. Mais finalement, et je crois que le sujet a été très bien posé, c'était des promesses qui n'étaient assorties de quasiment aucune contrainte et de dates de plus en plus lointaines et de chiffres de plus en plus flous. Donc effectivement, ça peut être considéré comme un progrès de réunir tout le monde dans une même pièce, mais les résultats sont, moi je trouve, extrêmement maigres, extrêmement minces et extrêmement flous. On peut citer, il n'y a pas de date pour le remplacement des énergies fossiles par les énergies renouvelables, le fonds vert qui devait être versé par les pays riches aux pays pauvres, il n'y a aucune sanction s'il n'est pas versé, et qui va contrôler à qui il est versé. Enfin, les exemples comme ça, il y en a plein. Donc, moi, je veux bien qu'aujourd'hui, on soit déçus, mais on pouvait l'être dès le début quand on lisait clairement le texte.
Mais là, c'est pas qu'ils sont déçus, c'est qu'ils sont catastrophés.
On aurait pu être catastrophés depuis le début parce que les textes étaient les mêmes exactement après la signature de l'accord.
Le problème, c'est qu'on a fixé des dates, un petit peu au hasard, et c'est exactement ce que dit Christian. On a l'impression que c'est on demande au Titanic de faire un dérapage contrôlé, de repartir en demi-tour immédiatement. Il faut du temps pour mettre en place, évidemment, les mesures qui compenseraient le fait d'arrêter totalement le charbon. Aujourd'hui, la Pologne, ils recréent des usines de charbon. Parce qu'ils en ont besoin pour leur économie. Ils en ont besoin pour
parce qu'ils ont fait aussi ce choix qui est un choix du moins 10 ans.
Bien sûr. Le temps d'harmoniser tout ça, effectivement, de se décider pour les éoliennes ou le nucléaire. Le nucléaire, ça va pas non plus parce qu'on est contre le nucléaire. Donc il faut le temps de trouver des solutions. Mais le temps passe. Et effectivement,
attention, parce que ce que nous dit le monsieur climat à l'ONU, il dit pas les promesses sont pas tenues. Il dit l'écart est catastrophique entre les promesses qui ont été faites, sous-entendu à Paris, et ce qu'il faudrait faire pour éviter la catastrophe.
Ça veut dire qu'il y a deux ans, tout était dit en 2015. Alors pourquoi il y a 2 ans, on n'a pas dit que c'était justement que les promesses n'étaient pas assez élevées?
Ça serait déjà très bien qu'on tienne les engagements pris à Paris.
Mais il n'y a pas d'engagement, il y a des promesses assez vagues.
Il y a des lignes directrices, il y a une volonté commune d'avancer, et je pense que c'est une base sur laquelle on peut.
Mais c'est exactement comme l'ONU, tant que vous n'avez pas des contraintes, quand vous avez des gros machins, des grosses structures avec des dizaines et des dizaines de pays. Vous voyez que même l'Union européenne n'en arrive pas à s'entendre entre nous. Et bien, tant que c'est pas contraignant, tant que vous n'interdisez pas la déforestation, par exemple, parce que les arbres gardent le carbone, et bien on n'avancera pas.
Parce qu'au Brésil, ils déforestent pour les contraintes.
Pour faire plaisir à l'Arabie Saoudite et au Venezuela, il n'a pas été fixé de date pour la fin de l'utilisation du pétrole. Et ainsi de suite. Donc finalement, qu'est-ce qu'il n'y a pas grand-chose.
Il y a des volumes pour le faire aujourd'hui.
Il y en a pour le charbon, il y en a pour le gaz, il y en a pour le pétrole.
Mais qu'on fasse pas.
Vous pensez qu'il peut se dire des choses dans 6 jours, c'est la COP 23.
COP 23, oui. en Allemagne. Ouais.
Vous pensez qu'on peut encore serrer la ceinture?
Elle n'a pas été serrée du tout, la ceinture. Donc,
mais sûrement pas. Il n'y a quasiment aucun chef d'État qui y va. Ce qui
moi, je mise plus sur Paris au mois de décembre que là, malheureusement, en Allemagne. Mais
enfin, là, on va peut-être faire une revue de.
Des problèmes.
Une revue des problèmes.
De ce qui n'a pas été fait.
Probablement une ou deux. Il suffirait d'une ou deux décisions très spectaculaires. Mmh. On a 6700 centrales à charbon dans le monde. Oui. Si on décidait de financer leur remplacement avec un grand fonds international, je pense que ça serait un signal très fort et ça pourrait être décidé très vite.
Eh bien, croisons les doigts. Merci beaucoup, Christian Menanteau d'RTL, Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine, Virginie Le Guay de Paris Match et Gaspard Ganzer. Eh bien, dans les librairies, hein, avec ce livre consacré à François Hollande.
Dans les aéroports aujourd'hui.
Et on remercie beaucoup Benoît Galeret, qu'on retrouvera demain avec nos amis internautes. Bonsoir Jacques Pradel.
Oui, bonsoir Vincent.
Alors comme ça, vous êtes l'homme qui fait parler les morts.
Oui, mon invité ce soir est un médecin légiste, le docteur Michel Sapanet du CHU de Poitiers. Il dirige la médecine légale de toute la région Poitou-Charentes et c'est vraiment lui l'expert incontournable des crimes de sang dans cette région. Il fait parler les morts et il contribue parfois à résoudre des mystères criminels.
Eh bien, à tout à l'heure, ça sera après le 20h et les infos. Jacques Pradel, l'heure du crime.